Radio-Canada, audio.
Dans mon cas, on a identifié assez rapidement ma maladie. Dès la naissance, c'était assez évident. Il y avait de bons indices physiques et corporels. Je suis plus petit, j'avais les doigts croches, les pieds beaux, etc. Il suffisait d'ouvrir un livre de médecine et on arrivait assez rapidement à la bonne page. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de mon ami Benoît et de sa sœur. Dans leur cas, ça a été un peu plus long. Et dans d'autres, c'est encore plus long avant d'arriver à un diagnostic. C'est même interminable. Des personnes qui errent dans le système de santé, d'un spécialiste à l'autre, sans que personne ne soit capable d'identifier le mal qui les afflige. Rare, la loterie génétique, c'est un balado qui s'intéresse aux maladies rares ou orphelines. La communauté scientifique en aurait identifié pas moins de 7000 à travers le monde, et au Québec seulement, pas moins de 700 000 personnes vivraient au quotidien avec l'une d'entre elles. Bref, c'est pas si rare que ça. Et de ces 700 000 personnes, on compte moi, Kevin Breton. Je suis journaliste au service des sports de Radio-Canada, mais aussi porteur d'un gène bien particulier qui fait de moi quelqu'un, bien, de pas mal rare. Et dans cette série d'épisodes, on va explorer ensemble ce que ça implique d'être une petite rareté dans le patrimoine génétique de l'humanité. Petite parenthèse sur moi, j'aime beaucoup la télé, j'adore regarder des séries, puis quand j'étais jeune, je regardais en rafale Dr. House. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec Dr. House, incarné par Hugh Laurie, ben c'est un petit génie de la médecine. Un génie cynique, oui, avec aucune aptitude sociale, certes, mais un génie tout de même. Son personnage était même inspiré du célèbre détective Sherlock Holmes, qui faisait un peu le même métier. Chaque épisode suivait la même formule. On présentait un nouveau personnage en début d'émission qui serait subitement affligé d'un mal étrange. Tout le corps médical allait alors tenter en vain d'identifier de quoi le patient souffre avant que l'on se tourne vers Dr. House. Des personnes avec une maladie rare, il y en a des tonnes qui sont passées par Prince Plainsborough, l'hôpital où travaille Dr. House. Il existe même une échelle pour chacun des 177 épisodes de la série qui indique à quel point la maladie en vedette est rare. Si Dr. House excelle autant dans son domaine, c'est parce qu'il adopte une posture plutôt atypique pour diagnostiquer des maladies. C'est bien démontré dans le tout premier épisode alors qu'il est en discussion avec un de ses collègues. L'équipe cherche ce qui a pu causer une crise d'aphasie chez une enseignante et la cause la plus probable, ce serait une tumeur. Et pourquoi chercher plus loin? C'est ce que le docteur Eric Furman tente de lui expliquer, mais il se fait rabrouer bien rapidement.
J'espérais quelque chose d'un peu plus original.
On ne devrait pas parler à la patiente avant de préciser le diagnostic.
Elle est médecin?
Non.
Tout le monde ment.
Le docteur House rencontre rarement les patients.
Ce n'est pas pour traiter les patients qu'on est devenu médecin?
Non, c'est pour traiter les maladies qu'on est devenu médecin. Traiter les patients, c'est ce qui rend la plupart de nos confrères malheureux.
Vous essayez d'éliminer la compassion de la pratique de la médecine?
Si on ne leur parle pas, ils ne peuvent pas nous mentir. Et réciproquement. La compassion est surévaluée. Je ne crois pas que ça soit une tumeur.
Première année de médecine, quand on entend des sabots, pensez à un cheval, pas un zèbre.
Vous êtes en première année de médecine? Non. Premièrement, il n'y a rien au scanner. Et deuxièmement, si c'était un cheval, son vieux médecin de famille n'aurait eu aucun mal à faire le bon diagnostic et on n'aurait jamais eu à s'intéresser à son cas. Diagnostic différentiel, messieurs, dames, si c'est pas une tumeur, quelles sont les autres causes? Pourquoi cette crise d'aphasie?
Je vais pas vous divulgâcher le dénouement du premier épisode, mais effectivement, la cause la plus probable, la tumeur, c'était pas le bon diagnostic. Dans la pratique courante, les symptômes observés par les médecins vont les diriger vers l'explication la plus plausible, qui s'avère la plupart du temps être la bonne. Ils fonctionnent par déduction. Tous les symptômes pointent vers une tumeur. Ça doit bien être une tumeur, puisque c'est tellement fréquent dans la vie. Ils entendent des sabots derrière eux et ils se disent « Les probabilités que ce soit un cheval que j'entende » sont pas mal élevés. Ouais, c'est assurément un cheval. Mais il y a quand même un petit pourcentage de chances que ces sabots, ce soient les sabots d'un animal plus rare ou moins commun, le zèbre. Et c'est ça, la série. Dr. House qui chasse des zèbres. Mais lui, il est l'exception, la solution de dernier recours, celui que l'on vient voir quand rien d'autre n'a fonctionné. Dans sa profession, les spécialistes comme lui sont pas mal rares, dans la fiction comme dans la réalité. Imaginez être atteint d'un mal mystérieux et ne pas en connaître la cause. Consulter des médecins pendant des années, des spécialistes même, et personne n'est capable de mettre le doigt sur le bobo. Pire encore, on identifie une maladie, oui, mais pas la bonne. C'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. C'est d'ailleurs l'une des principales préoccupations du Regroupement québécois des maladies orphelines, un organisme fondé par Gail Ouellette, éminente spécialiste en la matière. Est-ce que t'écoutais la série Dr. House, toi, Gail?
Oui, j'en ai pas toutes, là, mais j'écoutais certaines émissions. Puis, je pense que j'ai même écrit à un moment donné un petit article blog parce que, disons que des fois, il étirait la réalité là, ou les faits pour certaines maladies.
Ouais.
Mais c'est vrai parce que c'était la démarche, le questionnement. Ça, c'était très intéressant. Puis, évidemment, dans la vraie vie, par exemple, c'est bon de l'utiliser pour sensibiliser parce que dans la vraie vie, dans la pratique médicale, je suis pas sûre que ça se passe toujours comme ça, hein, à cause du manque de temps, de ressources, de même curiosité là, pour certaines personnes.
Ouais, Dr. House, lui, avait tout le loisir de prendre tout le temps du monde pour envoyer promener ses collègues, aller prendre des longues marches dans les corridors, évoquer des hypothèses, réfléchir, boire du scotch, alors que dans la vraie vie, les médecins, c'est pas comme ça, c'est pas la même réalité qu'il y a sur le terrain en ce moment.
Par contre, nous, ce dont nous rêvons depuis notre fondation au RQMO, c'est qu'il y ait un genre de clinique ou de centre comme ça, ou pour les non-diagnostiqués, il y a une équipe comme ça qui travaille. Puis ça existe hein, dans d'autres pays. Puis ils sont dédiés à ça, d'élucider comme des détectives là, ces maladies non-diagnostiquées.
Il y a ça dans d'autres pays, une espèce de super équipe de super-héros de diagnostic médical pour énigmes irrésolues.
Aux États-Unis, écoute, c'est un réseau, ils appellent ça en anglais le Undiagnosed Network, un réseau pour les non-diagnostiqués, à des grands centres aux États-Unis, il y a une douzaine de grands centres qui y participent et ce qu'ils font, il y a des médecins qui proposent leurs patients qui ont une maladie, là, qui ont tout fait pour diagnostiquer, ils n'y arrivent pas. Fait qu'il y a des équipes qui vont reviser tout le dossier médical, reviser les tests, peut-être demander d'autres tests. Puis souvent, si c'est, on pense que c'est une maladie génétique, bien là, ils vont utiliser les dernières technologies de séquençage exomique, génomique pour essayer. Ou ils peuvent penser dans d'autres cas à d'autres types d'examens ou de tests qui n'ont pas été faits. Fait que c'est un travail de détective. Puis je pense aussi à l'Allemagne qui a créé là, une clinique de non-diagnostiqués. Puis donc, nous, un rêve pour le Québec et le Canada, mais qui peut-être va arriver un jour.
Puis à la fin, c'était jamais le lupus. Pour les gens qui écoutaient la série télé, ils soupçonnaient toujours le lupus. Finalement, c'était jamais cette maladie-là.
Il y a quelque chose d'inhérent à une maladie rare, le fait que c'est rare, les médecins ne peuvent pas toutes les connaître.
Ouais.
Puis, eux, ils utilisent évidemment les tests, les examens standards là, auxquels ils pensent. Donc, s'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas, chercher plus loin. Et malheureusement, bien souvent, ça reste là. Puis, c'est pour ça qu'on dit que ces gens-là sont en errance diagnostique. Malheureusement, des fois, on dit même que nos médecins sont souvent formés, qu'une fois qu'ils ont tout fait ce qu'il faut, puis que les tests reviennent négatifs ou non concluants, puis on va dire que peut-être ça va être psychosomatique ou même une maladie psychiatrique.
On va arriver à la fausse conclusion que le patient invente ses mots, en fait.
Oui, invente ou c'est... Ou il y a un, comme là, il y a un nouveau terme là, qui s'appelle le trouble neurologique fonctionnel où on dit, ah non, c'est on voit là, t'as des vrais, une vraie manifestation, là, un vrai symptôme, mais c'est à cause de ton psychique. Là.
C'est toi qui le provoque
c'est exactement. Puis... Ou ils vont dire, ben c'est le stress, l'anxiété. C'est surtout pour des symptômes là, non spécifiques, là, des symptômes. Mais quand c'est récurrent, ces symptômes-là, puis que c'est dans plusieurs organes et systèmes, il faut quand même se poser la question, ça peut être un syndrome, ça peut être... Tu sais, c'est pas... Ils s'inventent pas tout ça. Fait que ça, malheureusement, là, c'est quelque chose d'assez fréquent. Puis ces personnes-là, une fois que c'est écrit aussi dans leur dossier, ça les suit, puis c'est très difficile après.
Ah ouais, c'est difficile à effacer. Une fois qu'un médecin a écrit que c'est probablement dans la tête, ça les suit longtemps?
Exactement, exactement. Il y a des préjugés, là... En général, depuis longtemps en médecine, on va penser que c'est plus des femmes qui ont des maladies psychosomatiques, qui, même comme mères, quand ils se présentent pour leur enfant, ils vont dire que c'est des mères qui sont trop inquiètes, qui sont anxieuses pour leur enfant. Mais bon, on constate quand même qu'il y a des hommes dans le domaine des maladies rares, donc une maladie non diagnostiquée, qui vont aussi là, se faire dire pour certains symptômes, là, ben, c'est le stress, l'anxiété. Puis ça arrive aussi là, aux hommes, mais plus fréquemment quand même aux femmes. Les maladies rares, s'il y en a entre 7 000 et 8 000, les médecins ne peuvent pas toutes les connaître, ces maladies-là. Donc, tu sais, c'est un peu normal. Là. On va dire que c'est normal que la maladie ne soit pas diagnostiquée en dedans de quelques mois, mettons. Mm-hmm. Puis évidemment, avec les contraintes de notre système de santé, hein, juste les délais pour voir certains spécialistes, les services de génétique. Bon. Donc, tu sais, je dirais... moi-même, là, je dirais aujourd'hui que si quelqu'un, ça prend un an ou moins, c'est bon.
Ah ouais, il faut vraiment s'attendre à faire un parcours du combattant pour faire reconnaître une maladie rare.
Oui, c'est ça. Là, on commence... Tu sais, la personne elle-même commence après un an, là... Tu sais, moi, je me mettrais dans leur situation. Là, on va trouver ça long, un an. Puis la moyenne là, de toutes les études, même nous, on a fait une enquête en 2010, plein d'autres organisations de maladies rares à travers le monde fait des enquêtes. Puis on parle d'une moyenne de 7 à 8 ans. Là. C'est long, ça. Puis nous, là, c'était presque 20 % que c'était plus de 10 ans.
Avant d'arriver à la bonne page dans le livre de médecine.
Oui!
7 à 8 ans en moyenne. Imaginez! 8 années de détresse, de frustration pour les personnes malades, mais aussi pour leurs proches. 8 années d'incompréhension, de scepticisme, de points d'interrogation dans les yeux des spécialistes. Il n'y a pas de Dr. House dans chaque hôpital et la vie, c'est pas comme à la télévision. Plus ta maladie est rare, plus tes symptômes paraissent invraisemblables, moins tu as de chances de recevoir le bon diagnostic rapidement. Et ça, Émilie et Élisée l'ont appris à la dure. Ces deux jeunes femmes qu'on a réunies ensemble ont la même maladie rare. Et les deux ont dû traverser un vrai parcours de la combattante pour qu'enfin on les prenne au sérieux. J'espère que vous le prendrez pas mal, les filles, mais en raison, parce que vous avez toutes les deux la même maladie qui fait en sorte que vous êtes plus à risque de vous évanouir. Donc, on a avisé la sécurité, Élisée, qu'on recevait une personne aujourd'hui qui risquait de s'évanouir parce qu'on voulait pas créer de commotion.
Parfait, tant mieux.
À Radio-Canada, mais ça se passe bien? Tu te sens bien en ce moment?
Oui, en ce moment, ça se passe bien.
Toi, Émilie, ça va bien aussi?
Moi, ça va super bien aussi, oui.
Les deux jeunes femmes ont fait connaissance à la suite d'un article de journal dans lequel apparaît Émilie. Émilie, elle nous parle du Saguenay, tandis qu'Élisée est venue à Montréal en studio pour nous rencontrer. Vous avez peut-être remarqué que j'ai évité de nommer quelle maladie vous avez. C'est pas parce que je veux vous laisser le faire, c'est que j'ai de la misère à le prononcer moi-même.
Non, de cette maladie. Il n'y a pas de problème.
Qui veut se risquer à le dire dans sa formule complète?
Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale.
C'est un syndrome qui est rare. Émilie, est-ce que tu sais, est-ce que tu t'es déjà informée à savoir à quel point c'est un syndrome qui est rare, celui qui t'affecte?
Oui, ben dans le fond, moi, personnellement, ça a été super long à avoir comme diagnostic. Donc, j'avais aucune idée c'était quoi. Mais avec le temps, on a découvert que c'était pas si rare que ça. C'est juste que les diagnostics se font pas bien ou se font quasiment pas. Parce que chaque personne est différente. Moi et Élisée, on a le même syndrome, mais pas au même stade, par exemple.
Oui. C'est quelque chose qu'on a quand même entendu quelques fois dans le balado, rare, mais pas si rare que ça. Puis moi, c'est le même que je t'ai découvert, Émilie, là, avec un article au titre assez accrocheur quand même là, dans le Journal de Montréal qui disait que tu étais allergique à la gravité. Est-ce que c'est une bonne manière de décrire ta maladie, ben, votre maladie, si on la connaît pas, allergique à la gravité?
Moi, ça me définit quand même assez bien parce que je pourrais comparer ça, exemple, vraiment à un astronaute. Les agents de bord, les pilotes, tous les gens qui sont en aviation reviennent et ont souvent le syndrome, mais de manière aiguë. Donc, c'est pas chronique, ça va passer avec le temps.
OK.
Donc, quand ils reviennent les pieds sur terre, souvent, c'est les étourdissements, les évanouissements, les maux de cœur, les tremblements, les palpitations. Et puis moi, c'est exactement ça que ça fait dès que je suis debout. Dès que je suis debout droite, ça tombe.
D'où la mention posturale dans le titre officiel.
Exactement.
Donc, toi, tu as 23 ans et tu l'as dit, oui. Tu es à un autre stade de la maladie qu'Élisée. Toi, Élisée, tu as 17 ans.
Oui, j'ai 17 ans.
Tu la décrirais comment, ta maladie, dans ton cas?
Bien, je dirais que cette année, c'était à mon pire. Je perds connaissance plusieurs fois par jour. Ça étonne certains médecins aussi que ce soit plusieurs fois par jour, parce qu'eux, ils s'attendent que ce soit quelques fois par semaine, mais que c'est un combat de tous les jours quand même.
Là, plusieurs fois par jour, donc, que tu pouvais perdre connaissance.
Oui, jusqu'à... Avant, je dirais en automne, c'était environ plus que 10 fois par jour. Là. Puis à chaque fois que je me réveille, ben il faut que j'attende un peu parce que je peux reperdre connaissance puis il peut y avoir un après l'autre là, si je fais pas attention. Mais maintenant, je dirais que c'est plus jusqu'à 5 fois par jour. Mais je dois vraiment faire plus attention. Puis j'ai appris à plus apprendre mon corps, comment il fonctionne. Mais c'est encore difficile parce que je peux pas tout contrôler. Là.
Est-ce que tu limites le temps que tu passes debout, par exemple, pour éviter?
Oui. Ça, j'essaie le plus possible de continuer à être debout parce que je veux pas me déconditionner, mais ouais. Je dois limiter parce que si je reste trop longtemps debout, je peux pas être debout statique, il faut que je bouge. Mais quand je bouge, ça fait pomper mon cœur qui fait que je perds connaissance. Fait que les deux... Ça fonctionne pas, là.
Parce que ça, Émilie, c'est l'autre aspect de la maladie, d'ailleurs, l'espèce d'épuisement
où
le cœur qui s'emballe quand il y a des activités physiques trop éprouvantes.
Oui, exactement. Tout dépendant, moi, justement, je suis rendue à un stade assez élevé. Donc, j'ai des traitements intravenus à toutes les semaines et j'ai beaucoup de médications qui m'aident à mon quotidien, dans le fond. Parce que la chose qu'il ne faut pas faire, justement, c'est rester alité au lit et se déconditionner. Donc, c'est pour ça que j'ai été 4 mois en réadaptation physique, à réapprendre à bouger. Parce que c'est super important de garder une forme malgré le fait qu'on ait des symptômes.
Est-ce que c'est venu aussi avec des deuils, des sacrifices? J'imagine que oui, là, tu as parlé de tes études pour devenir infirmière.
Oui, exactement. Dans le fond, moi, j'ai terminé mes études. Il manque quelques cours à mon bac, mais j'ai terminé mon DEC et tout. J'ai réussi à travailler, sauf que c'était beaucoup trop compliqué pour moi d'essayer d'être infirmière en ayant ce syndrome-là. Donc, je me promenais entre les chambres de patients avec un petit siège. Malheureusement, je me suis évanouie vraiment sur le béton. Puis là, ça a été la goutte de trop. Donc, niveau travail, je suis en arrêt depuis novembre, mais pas novembre qui vient de passer, mais l'autre novembre. Mm-hmm. Puis j'envisage de recommencer, pas maintenant, mais dans un futur rapproché quand même, là, parce que je me suis vraiment battue pour avoir les bons traitements puis pour que ça aille mieux.
Il y a quand même un aspect assez... puis je vois que les deux, vous composez bien avec cette réalité-là, mais un aspect assez comique au fait qu'on peut s'évanouir n'importe où, n'importe quand, au pire moment.
Oui.
Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment en particulier où vous vous êtes évanoui dans un lieu inusité ou un endroit où vous auriez préféré ne pas vous évanouir? Parce que je peux pas ne pas vous poser cette question-là.
Bien, le premier que j'ai tout de suite pensé, c'est j'étais à l'école. Je sais pas pourquoi j'ai décidé à ce moment-là, mais j'étais sur la scène à l'auditorium, puis je faisais du théâtre, puis j'ai décidé de descendre les marches. C'était tellement une pas bonne idée, mais non seulement j'ai perdu connaissance dans les escaliers, mais je me suis déchiré les pantalons devant tout le monde. Puis ça a fini que mon prof il a juste jeté quelque chose sur moi pour comme me
te
cacher.
Couvrir.
Parce que même mes bobettes, il avait tout déchiré. Là. C'était rendu là. c'était rendu vraiment un inside joke entre tout le monde du théâtre parce que c'est comme Élisée s'est déchiré les pantalons devant tout le monde. Mais ça, c'est à ce moment-là, j'aurais aimé ne pas perdre connaissance.
Je comprends. Émilie?
Moi, c'est vraiment une toute autre histoire. Comment apporter ça? Je vous dirais qu'être debout cette année, c'est difficile. Puis faire des activités physiques, c'est difficile. Puis au niveau des activités d'adulte, je vous dirais que ça l'arrive. Fait que c'est tannant quand t'es en train de faire quelque chose d'adulte. Puis finalement, la personne te demande « Excuse-moi, t'es-tu encore là? » Mais t'sais, t'es plus là, là. Donc ça, ça m'est arrivé super souvent. Puis sinon, à l'épicerie, étendue à terre dans les allées.
Ah oui, ça
tout
c'est...
Tout le temps, là.
Tout le temps, tout le temps, là. C'est rendu tes moments de sieste, là.
Ouais, ouais.
Wow! OK.
On fait des siestes partout. J'étais allée à Toronto pour des rendez-vous médicaux puis voir une game de basket. À ce moment-là, j'avais dit à mon copain, hey, ça va vraiment pas, là. Je sais pas comment je vais me faire pour me rendre à l'hôtel, là. Ça va juste être impossible. Donc, il a fini par me prendre sur ses épaules. Mais plus ça allait, plus je tombais, là. Enfin, je me suis juste évanouie au beau milieu de la rue à Toronto, mais comme il y a des voitures qui passent en masse, là.
Mm.
Puis là, tout le monde arrêtait, puis j'étais avec deux hommes. Puis j'étais sans connaissance.
Oh, mon Dieu.
Les gens étaient sûrs que je m'étais fait droguer.
Ils étaient pour appeler la police, là.
Exactement.
C'était drôle. Les filles n'ont pas juste une maladie en commun, elles ont aussi toutes les deux un bon sens de l'humour. Et il faut quand même avoir un sens de l'humour pour être capable d'expliquer à des gens qu'on est allergique à la gravité. Même moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai un petit peu froncé les sourcils. Ça a été vraiment compliqué, dans un cas comme dans l'autre, d'obtenir un diagnostic, mais elles ont réussi.
Moi, ça a été super compliqué. J'ai eu un accident de voiture en 2019, justement. Puis c'est suite à cet accident-là que j'ai commencé à avoir des symptômes. J'ai recommencé l'école en stage, en soins infirmiers, en pédiatrie. Et mon cœur s'emballait sans qu'il y ait nécessairement une raison. Donc, mon professeur de stage me descend à l'urgence, on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, ils me disent que c'est l'anxiété. Mais, tu sais, étant quelqu'un de pas anxieuse vraiment de nature, ben, je les ai tout simplement écoutés. Puis à ce moment-là, ils m'ont prescrit des antidépresseurs sans vraiment savoir qu'est-ce que j'avais. Puis ils m'ont donné de la médication. Ils ont créé une arythmie, dans le fond, que j'avais aucune idée que j'avais. Donc, je visitais la cardio très souvent. Puis on savait pas qu'est-ce qui se passait. Jusqu'à temps qu'un beau jour, je rencontre un gentil médecin qui commençait sa carrière. Et puis là, il me dit, on va te faire passer un ECG debout. Donc là, il me regarde, puis il commence à me parler du POTS. Donc, il commence à m'expliquer que j'ai une intolérance à l'orthostatique et que j'ai un problème de dysautonomie derrière mes troubles cardiaques. Donc, c'est pour ça que je m'évanouissais autant. Parce que dès que j'arrivais à l'urgence et que j'étais couchée, j'avais plus vraiment de symptômes, à part les palpitations. Donc là, tous les tests ont décollé. J'ai passé une batterie de tests ici au Saguenay. Arrivée à Montréal, dans le fond, j'ai vu un médecin spécialiste en problème de dysautonomie. Et puis, c'est vraiment lui qui a commencé mon évaluation. Ensuite, j'ai passé dans son laboratoire. Puis, il n'avait jamais vu ça. Dans toute sa carrière, lui, il diagnostique les gens comme moi et Élisée. Et puis, il n'avait jamais vu quelqu'un de 24 ans avoir un syndrome de POTS atypique autant intense.
Ça a pris combien de temps en tout avant d'arriver à des réponses, vraiment?
Ça l'a pris un gros 3 ans facile.
3 ans de se faire balancer d'une place à l'autre.
Oui, j'ai été médicamentée, une dizaine de médications pour le cœur. Il était prêt à m'opérer. Si l'opération ne fonctionnait pas, c'était le pacemaker.
Puis ça, Élisée, tu as fait un séjour en soins psychiatriques pendant 2 mois. Donc, toi aussi, à un moment donné, on ne regardait pas du tout à la bonne place pour soigner tes symptômes. On pensait que c'était dans ta tête?
Oui, c'est... J'ai eu des à partir de 2019, j'ai commencé à avoir des troubles gastro-intestinaux. Je vomissais quand je mangeais, tout ça. Puis j'ai commencé à perdre connaissance en même temps. Mais on pensait que c'était la dénutrition, puis le fait, tu sais, comme quand tu fais de l'hypoglycémie, tout ça, que tu perds connaissance. Fait qu'on s'est pas posé plus de questions, mais il y avait d'autres symptômes, tu sais, j'étais pas toute là. Fait que là, on se disait, ah, c'est la dénutrition, tout ça. J'étais déjà pas très suivie pour tous mes problèmes d'estomac. Puis à un moment donné, je suis arrivée en urgence à l'hôpital parce que j'étais mourante. J'étais en train de mourir de dénutrition. On m'a tout de suite gavée. On m'a donné on m'a nourrie par un tube nasogastrique. Puis à ce moment-là, je continuais à perdre connaissance. Fait que je comprenais pas quand ils me nourrissaient.
Là, ils voyaient bien que c'était
pas Puis ils ont commencé à dire que c'était dans ma tête parce qu'ils se disaient « ça continue ». Puis, tu sais, pendant ce temps-là aussi, ils disaient que mes problèmes gastro-intestinaux, ils trouvaient rien. Fait qu'ils disaient que aussi, ça, c'était mental. Fait qu'ils pensaient vraiment que j'avais un trouble alimentaire, vu aussi mon âge. Je suis une femme, puis adolescente. Fait que souvent...
C'est le réflexe
qu'on a. C'est ça, c'est le réflexe. Puis je comprends qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas une raison aussi de pas écouter le patient. Ma médecin, elle a été transférée... Bien, elle a fait un stage plus loin... Fait qu'elle m'a transférée à Sainte-Justine, vu que je suis encore mineure. Puis j'ai vu un médecin, première fois qu'il me voit, il fait juste me lever avec un truc de pression, puis il fait « t'as pas, tu ». Je fais...
Mais ça a pris combien de temps en tout, mettons?
Ça a pris 3 ans depuis le début. Puis ça a pris 3 ans, puis on m'a jamais fait le test assis, genre couché 15 minutes, puis après tu te lèves. C'était juste ça le test. Là. C'était pas... oui, il y en a qui font le tilt table test, que c'est vraiment une table qui te lève tout
ça. Basculante.
Puis ça, c'est vraiment le test comme plus officiel. Mais tu peux le faire un peu genre clinique, de comme on va regarder, puis habituellement, c'est pas mal fiable de voir tout ça. Fait que... ouais.
Vous imaginez le soulagement ressenti après des années à errer dans les méandres du système médical, de finalement avoir la confirmation que votre condition, elle existe, qu'elle n'est pas juste dans votre tête, la frustration doit être immense. Comment on fait pour ne pas devenir amer après avoir traversé pareille expérience? Mais en même temps, les médecins sont tellement sollicités et portent tellement un gros fardeau. Il existe 7000 maladies rares et on ne peut pas demander à aucun être humain de les connaître toutes sur le bout de leurs doigts. Mais est-ce qu'on pourrait quand même pas trouver une façon de mieux les outiller, de mieux les former, ces médecins de famille-là, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers au front quand vient le temps de dépister des maladies? Ce questionnement, c'est la docteure Andrée Hiergeau elle-même qui le met de l'avant. Et disons qu'elle est très bien placée pour le faire.
En fait, j'ai toujours su que j'avais quelque chose de particulier à cause de tous les symptômes que j'ai eus toute ma vie. Mais j'ai cru bon de ne pas en parler parce que je trouvais que les symptômes étaient souvent bizarres. C'était là, c'était pas là. Alors, comme médecin, je me suis dit, on va m'envoyer en psychiatrie. C'est certain, je suis mieux de garder ça pour moi. Et quand ma fille a été hospitalisée pendant presque un an, elle a été diagnostiquée parce qu'elle, elle est beaucoup plus atteinte que moi.
Une forme plus sévère.
J'ai compris ce que j'avais et je suis allée en diagnostic. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 55 ans. Et puis, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 25 ans.
Vous avez été diagnostiquée donc en même temps?
Oui, bien presque. Une couple d'années après, là, le temps de me revirer de bord puis m'occuper de ma fille comme il faut après que le diagnostic a été fait puis qu'on a sorti de la psychiatrie et qu'on a réussi à commencer un peu à avoir des services. Après ça, j'ai eu un peu de temps pour moi. Mais mes symptômes, moi, de ce que je me rappelle, ont commencé vers l'âge de 6 ans quand même, par une subluxation de la hanche. C'était pas rien.
Quand tu as commencé ton parcours de médecin, t'avais des soupçons que c'était la maladie Ehlers-Danlos?
Non, je connaissais pas ça du tout. J'avais aucune idée. Je savais que j'avais un corps qui était capricieux. Qui donnait des choses bizarres, mais je savais que c'était pas dans ma tête. Ça pouvait pas être dans ma tête. C'était clair pour moi. Je savais que c'était physique, mais je savais pas c'était quoi. J'avais aucune idée. Puis comme j'étais pas très, très atteinte, j'ai pas été amenée à faire des recherches à n'en plus finir pour savoir ce que j'avais. Je vivais bien avec ça jusqu'à l'âge de 50-quelques années où là, j'étais très malade, où j'ai fait une maladie de Cushing. Personne ne me croyait. On me disait que c'était la ménopause, c'est la fatigue, c'est la ménopause, jusqu'au jour où je suis venue pour me lever de ma chaise, j'ai pas été capable. Là, j'ai dit, là, ça marche pas. Je vais me diagnostiquer moi-même. Je vais m'investiguer. Alors, je suis arrivée au bureau le lundi matin, puis j'ai demandé à mon infirmière de me faire une prise de sang. Puis j'ai dit, regarde, on ratisse à l'air. Puis là, j'ai trouvé. Mais ça faisait quand même déjà 3 ans que j'étais très malade, de plus en plus malade. Puis personne ne me croyait parce que c'est pas quelque chose de fréquent. Alors, je craignais ne pas être cru, puis c'est ce qui est arrivé. Puis j'avais raison.
Est-ce que tu en veux à ces spécialistes-là qui t'ont dit ça?
Non. Non, j'en veux pas. J'en veux pas parce que, premièrement, j'ai passé une vie sans être trop malade. J'aurais pu moi-même faire des recherches, mais j'étais pas axée comme ça. Comme médecin, on est beaucoup axé vers les autres, à s'occuper des autres. J'avais aussi une enfant malade à la maison. Alors, j'étais pas axée vers ça. Et j'ai pas pensé à ça, moi. Mais mon médecin, là, elle a 2 ans de plus que moi. Elle a eu la même formation que moi. Elle a été formée exactement comme moi. Alors, j'y en veux pas, non, parce que je pense que j'ai eu un très bon médecin de famille, vraiment très diligente, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une maladie rare qui n'est pas connue. Et puis, on a été, nous autres, en tout cas, quand nous, on a eu notre cours, je dis mon médecin de famille, puis moi, quand on a eu notre cours de médecine, on nous oriente beaucoup vers la psychiatrie. Regarde, pense à ça vite, etc. Parce que j'ai quand même été taxée de dépression. J'ai été traitée pour une dépression. Je disais, je fais pas de dépression. Mais j'avais pas le choix. Si je voulais être écoutée encore, il fallait que j'écoute puis que je fasse ce qu'on me disait. Je peux pas lui en vouloir, non. Non, parce que je pense que j'avais un bon médecin de famille. Puis je pense que la moyenne des médecins de famille auraient tous agi comme elle.
Docteur Hiergeau aurait eu beaucoup de raisons d'en vouloir au système médical. Parce que sa fille aussi a eu toutes sortes de difficultés à se faire diagnostiquer. On l'a même envoyée en psychiatrie avant qu'un médecin là-bas en vienne finalement à prendre au sérieux ses symptômes. Pour elle, la meilleure façon d'éviter que des histoires de genre se reproduisent, c'est de faire connaître auprès des médecins les ressources spécialisées qui existent déjà, comme le RQMO, le regroupement québécois des maladies orphelines. En médecine, est-ce qu'il y a des cours spécifiques sur les maladies rares?
Non, pas que je me rappelle. Mais un cours sur une maladie rare, un cours sur les maladies rares, parce qu'on sait que les maladies rares, il peut y en avoir au moins jusqu'à 10 000. Hein. Ça, il faut éveiller à ce que ça peut être une maladie rare. Et après ça, il faut mettre des ressources. Parce que même si j'avais su que pour ma fille, elle avait une maladie rare, ou moi, j'avais une maladie rare, ça nous prend des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme le RQMO, pour nous aider comme médecins à savoir c'est quoi. Si j'avais connu cette ressource-là, j'avais su que je pouvais appeler là pour dire, regardez, moi, j'ai tel symptôme, ou ma fille a tel symptôme, avez-vous une idée de ce qu'elle peut être? C'est ça que ça prend. Il faut que ce soit connu et utilisé.
Un vase communicant entre les médecins de famille et le RQMO, disons?
Oui.
Est-ce que tu dirais que ça prend aussi une bonne dose d'humilité, peut-être à injecter chez les médecins, de cultiver le doute chez eux plutôt que de penser très rapidement qu'ils ont la réponse?
Bien, écoutez, oui, cultiver le doute, il faut cultiver le doute pour aller se questionner, pour aller se questionner. Mais comme médecin, on est là pour aider le monde. On nous dit qu'il faut aider, il faut faire une différence dans la vie des gens. Quand le médecin n'a plus de réponse puis est coincé, bien, ce qu'on nous a appris, c'est penser à la psychiatrie, puis ça va être ça. Vous allez avoir raison. Donc, eux autres, les médecins qui font ça, ils pensent qu'ils font bien. Ils pensent qu'ils aident leurs clients encore.
Est-ce que, par exemple, tu as beaucoup d'espoir en la politique sur les maladies rares que le gouvernement du Québec a dévoilé son futur plan d'action pour mieux aider les médecins? Et si oui, comment?
Oui, j'ai de l'espoir. J'ai parlé au médecin qui a écrit cette politique-là, puis j'ai dit, écoutez, il y a le RQMO, embarquez-le avec vous. Vous avez déjà un outil extraordinaire qui est déjà créé. Mettez de l'énergie là-dessus. Faites en sorte que les gens puissent être diagnostiqués plus facilement. Il faudrait que le RQMO reste pour les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens et la clientèle. La plupart des médecins, moi, je pense qu'ils vont embarquer s'ils vont savoir qu'il y a une nouvelle ressource parce que les médecins veulent aider leurs clients. Ça, tous les médecins veulent faire ça. Si tu ne veux pas faire ça, tu ne restes pas en médecine. Okay. Alors, si on a une ressource qui est facilement accessible puis qu'ils ont quelqu'un avec qui ils ne savent plus quoi faire, il y a bien des chances qu'ils appellent. La volonté puis la bonté, elle est là. C'est la connaissance et les moyens qui ne sont pas là. Un centre de référence en génétique pour tous ceux qu'on sait pas ce qu'ils ont, que ce soit un centre efficace qui voit les gens dans un délai raisonnable, c'est un rêve.
Ce rêve existe déjà ailleurs, juste au sud de notre frontière. Aux États-Unis, il existe un réseau opéré par le National Institutes of Health qui regroupe 15 gros centres. Ça s'appelle le Undiagnosed Disease Network, le réseau des maladies non diagnostiquées. Et n'importe quel médecin peut y présenter un dossier pour élucider un mystère. Le regroupement québécois des maladies orphelines, fondé par Gail Ouellette, rêve aussi à une super équipe de médecins remplis de génies, comme Dr. House, mais avec un meilleur caractère, là. Et le plan d'action québécois pour les maladies rares, qui a été dévoilé en mai 2023, contient plusieurs mesures pour tenter de réduire l'errance diagnostique. Mais en étant conscient que ça va prendre du temps à mettre en place ces mesures, bien le regroupement tente de pallier le besoin avec son centre IRAR, un centre de soutien et un registre pour les personnes atteintes de maladies rares, incluant les personnes sans diagnostic. Vous pouvez consulter le site du RQMO pour plus d'informations. En terminant, je dédie cet épisode à toutes celles et ceux qui sont en attente d'un diagnostic et je salue votre résilience. Une résilience qu'Élisée a bien décrite dans une chanson qu'elle a composée au ukulélé et dont elle a bien accepté de nous jouer un petit morceau avant de quitter le studio. Réalisation, montage et musique originale, Marie-Hélène Frenet-Assad. À la recherche, Annie Verret. Idée originale et animation, Kevin Breton. Une production Radio-Canada Audio.